encore heureux.
Le bonheur n'est pas immédiat, il est le fruit d'un long travail.
How y'all feel out there?
Yo à tous les gars.
Check this out.
Alors écoutez
One,
ça.
1, 2, 3.
1, 2, 3.
It's the place to be.
Ok, bon, avec nous ce soir Arthur Dreyfus.
It goes 1, 2, 3.
Bon, Arthur Dreyfus. Hein.
Bonsoir tout le monde, il se passe des choses. L'amour ou la peur de l'amour pousse à tout. Un jeune Anglais, le jour de son mariage, s'est rendu compte qu'il avait oublié de réserver la salle municipale où seraient échangés ses vœux. Paniqué, il a eu l'idée d'appeler la police pour déclencher une alerte à la bombe. L'évacuation immédiate du bâtiment a effectivement permis de ne pas aborder avec sa femme le problème épineux de la réservation. Lui a écopé d'un an de prison ferme. L'idée était presque ingénieuse, davantage en tout cas, que celle d'un octogénaire de Fréjus qui a été conduit hier, le pauvre, à l'hôpital suite à de sérieuses brûlures. Il avait senti, en pleine nuit, une odeur de gaz et il avait cherché la provenance de cette fuite avec une allumette. Il ne faut pas prendre exemple sur les faits divers, même celui-ci, même si l'on se trouvait récemment à côté d'une personne très bruyante à table. Aujourd'hui, à La Rochelle, une femme de 55 ans a été mise en examen pour le meurtre d'une de ses amies. Elles goûtaient ensemble après une promenade du dimanche. L'une parlait vraiment trop fort, l'autre l'a tuée de 8 coups de couteau. Aujourd'hui, mercredi 23 octobre, c'est le jour officiel du céleri, l'anniversaire des cinéastes Ang Lee et Sam Raimi. Nous sommes avec Laura Alcoba et c'est encore heureux.
Encore heureux.
And it goes a little something like this.
Bonsoir Laura Alcoba.
Bonsoir.
Bonsoir Eva Bester.
Bonsoir.
Et bonsoir Sandra Rafflet.
Bonsoir.
Bon, je dis vos noms, hein, parce que maintenant, c'est ce qu'on fait, non?
Oui, c'est vrai, on voulait rester anonyme.
Vous vouliez rester anonyme. Eva, quelle question piège aimeriez-vous que je vous pose à propos de Laura Alcoba aujourd'hui?
De quelle couleur est l'âme de Laura Alcoba le mercredi? Et si oui, où ça?
Vous pouviez répondre, Laura Alcoba, de quelle couleur est votre
couleur
âme?
Je vais pas dire bleu. Noir, non, non.
Non, bah pas noir, pas possible.
Rose, oui, très jolie.
Sandra, ça vous va, rose, comme couleur d'âme?
Ça me va, c'est cucu, c'est parfait pour essayer de réveiller l'automne.
Bah voilà, tout le monde sait que les filles ont une âme rose et les garçons ont une âme bleue. Laura Alcoba, quel est votre métier?
Je lis, j'écris, je traduis, puis parfois je parle, voilà.
Vous y vivez avec les mots?
Oui, c'est ce qui m'intéresse, ce que je fais, ce que je pratique tous les jours.
C'est un bon compagnonnage.
Oui, c'est vrai. En des termes plus formels, c'est-à-dire que vous êtes écrivain, traductrice et professeur.
Oui.
Alors, vous êtes professeur d'espagnol à l'université, enfin de littérature espagnole, mais vous êtes aussi romancière. On vous reçoit pour un livre, notamment, qui s'appelle Le Bleu des abeilles, un roman de la rentrée littéraire. Vous n'avez jamais écrit en espagnol. Alors, beaucoup de journalistes vous ont demandé pourquoi vous écriviez vos romans en français. La réponse, c'est l'espagnol est la langue où j'ai appris à me taire.
Oui.
Là, il faut parler.
Là, il faut parler, oui. L'espagnol est la langue où j'ai appris à me taire. Oui. J'ai évoqué cela dans mon tout premier roman. Il me semblait que c'était la première, le point de départ pour essayer d'écrire Manège, où j'ai raconté c'est un roman aussi, hein, mais inspiré directement, disons, de mon expérience sous la dictature en Argentine, enfant, où il ne fallait pas parler trop, il ne fallait pas dire les mots, certains mots, il fallait savoir cacher son identité, ne pas dire qu'à la maison il y avait une imprimerie clandestine, ne pas dire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y avait une peur très particulière avec laquelle j'ai grandi. Je suis tombée dedans, toute petite. Et l'arrivée en France, pour moi, c'était la découverte d'une langue où l'on pouvait... c'était d'abord la découverte d'un pays et d'une langue où on pouvait parler librement. C'était une grande surprise et c'est de ça aussi que parle le Bleu des abeilles.
Alors, dans l'heure qui suit, où nous sommes avec vous et avec vous tous de l'autre côté, on va parler librement du Bleu des abeilles, mais aussi du monde et puis aussi peut-être de l'Argentine. Avec vous, Laura Alcoba, on se retrouve juste après ça. C'est la dernière perle de nos chers programmateurs musicaux. Ça s'appelle Black Mambo. C'est le dernier titre de Glass Animals, ce groupe d'Oxford dont on parle beaucoup. Le terme de perle est assez approprié. On les entend, ces petites billes de nacre grésillées, éclatées sous la voix enveloppante, sombre, multicolore d'un chanteur serpent, Glass Animals.
What'll it be now, Mr. Moore?
C'est joli quand même ce titre de Glass Animal, ça s'appelle Black oui. Mambo. Ça vous plaît aussi,
oui, ça me Eva plaît.
Black Mambo, en fait, c'est Black Mamba, c'est le serpent le plus dangereux du monde qui n'a même pas peur des humains, comme le raconte Roald Dahl. Voilà, c'est dans la playlist de Inter.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux ?
Toujours, oui.
C'est encore. C'est France Inter.
Je suis, nous sommes, vous êtes avec Laura Alcoba. Alors, je peux vous représenter un peu, Laura. Je resitue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Laura, c'est une charmante jeune écrivain qui vient de publier dans la rentrée littéraire de Gallimard son quatrième roman, Le Bleu des Abeilles. Très joli titre, évidemment titre mystérieux, qu'on comprend en traversant ce voyage bref et intense. Bref mais intense, c'est vrai, dans le corps, dans les yeux, dans les secrets d'une petite fille qui a rejoint sa maman en France en 1979, pour fuir la répression politique en Argentine, d'où elle vient. Le régime tient son père enfermé, en prison. Un père avec qui elle correspond, par courrier, de manière extrêmement touchante. La première phrase du livre, Laura Alcoba, c'est une phrase qui n'est pas encore en France. Elle démarre à La Plata, cette phrase. Et c'est le point de départ de mon voyage se trouve quelque part sous mon nez.
Oui, puisque c'est le voyage dans la langue française. C'est à la fois l'histoire d'un voyage dans la langue, dans le corps, avec le corps aussi en France. Et puis, bien sûr, un voyage qui va se dérouler par la suite pleinement avec le départ et l'arrivée au Blanc-Ménil, à côté de Paris.
Alors, ce n'est pas Paris, c'est le Blanc-Ménil, c'est presque à Paris, c'est ça?
Oui, ce n'est pas tout à fait. Il y a toujours un petit décalage. On est un peu à côté, on n'est pas tout à fait là où on avait rêvé d'être, mais on y est pleinement.
Alors, vos précédents romans, il y en a plusieurs, il y en a trois, dont Manège, que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça a été un succès considérable en Argentine.
Oui.
C'est devenu un classique qu'on étudie à l'école, qui est lu et relu par des familles de prisonniers politiques. On y trouvait aussi le point de vue d'un enfant. Dans Les Passagers de la Nacée, votre avant-dernier roman, on se trouvait encore de l'autre côté de l'océan. Pourquoi vous avez attendu ce quatrième livre pour débarquer en France?
Je ne sais pas, mais disons que quand j'ai écrit Manège, qui est donc mon tout premier livre, j'avais la certitude qu'il fallait que je commence par là.
Il y a quelque chose
de chronologique. C'était la première pierre. Pas vraiment, parce que les Passagers de la Nacée nous fait remonter dans le temps, puisque c'est avant, chronologiquement, avant Manège. C'est l'histoire de mes parents, notamment dans un groupe de jeunes révolutionnaires qui avaient l'idée de rejoindre le Che Guevara dans les années 60. Donc là, j'ai remonté le temps avec les Passagers de la Nacée. Manège, oui, c'est l'histoire de cet enfant prise dans la peur et le silence auquel j'associe la dictature en Argentine. Ce bain dans lequel je suis tombée toute petite. Et il me semblait que c'était à partir de là que je pouvais essayer de construire quelque chose.
Elle a disparu, la peur, aujourd'hui ?
Oui. Oui, bien sûr, elle a disparu. Elle a disparu autour de beaucoup de la langue française. Et je crois que j'écris Le Bleu des Abeilles pour ça aussi, pour raconter cette relation, ce rapport avec la langue comme un lieu où vivre.
C'est drôle, quand vous parlez, on a l'impression que c'est pas du tout méchant, que vous parlez à vous-même, que vous écoutez les mots qui sortent de votre bouche comme s'ils allaient vous surprendre.
Je sais pas.
Vous en êtes consciente?
Oui, j'essaye de les trouver, d'être avec eux. Oui.
Sandra, vous imaginez Laura Alcoba bébé?
C'est une drôle de question. Oui, elle l'a probablement été, je veux bien le croire.
Non, parce que Laura Alcoba, vous dites, je n'ai aucune photo de moi bébé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Pas de photo de famille.
Non. Les premières photos que j'ai, je dois avoir 2-3 ans dessus et j'en ai très très peu. Bébé, je n'en ai aucune puisque c'est une drôle d'histoire, la mienne. C'est vrai que bon, c'est mon terreau à partir duquel j'écris et que j'essaye de sonder dans mes livres, même si je sais pas toujours, c'est pas vraiment dans l'idée de me raconter, mais bon, c'est vrai que je suis née dans la clandestinité et donc il y a toute une partie de mon histoire qui est liée au secret. À ce qui est caché et qu'il a fallu que j'aille chercher beaucoup. Ouais.
C'est très étonnant cette idée de secret. Même à votre père, quand vous lui écrivez en prison, il a le droit d'avoir simplement 5 photos. Elles sont contrôlées
Oui. Et
il doit déclarer les identités des personnes qui figurent sur ces photos. Et donc c'est très poétique parce que quand on met une mère et une fille sur une même photographie, on gagne une photo sur les 5 parce qu'il y en a 2 sur une.
Oui, mais en même temps, il ne faut pas se tromper. D'où une grande angoisse.
Et pourquoi à ce moment-là, on ne choisit pas de photographier tout le monde sur la même photo? On pourrait presque.
Oui, mais il faut décliner l'identité de tout le monde.
Mais entre ceux qui existent sur une photo ou uniquement par une photo et qui sont des êtres, on peut élargir la chose presque au pays, puisque dans Le Bleu des Abeilles, vous racontez que vous êtes obligé de prouver à une camarade de classe que l'Argentine existe. Elle ne le croit pas.
Oui, c'est un souvenir qui pour moi était très, très déstabilisant, qui s'est retrouvé dans le livre, dans Le Bleu des Abeilles. Ce pays où j'avais vécu des choses si intenses, si fortes, n'existait pas pour beaucoup de gens. C'était une station de métro.
Alors, je vous ai demandé ce qui était pour vous le passé, Laura Alcoba. Vous m'avez dit que c'est un manche-disque, mais on n'a pas trouvé de manche-disque à France Inter. Maintenant, on est passé au tout numérique, il n'y a même plus de bande. Alors, j'ai plutôt parlé d'un poème qui vous rend heureux,
Oui.
C'est un poème de Rimbaud qui s'appelle Sensation. Je le dis vite parce qu'il y a seulement 2 strophes et vous allez comprendre pourquoi il faut l'entendre avant de vous faire lire quelque chose. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Cette sensation, on la retrouve dans la manière dont vous parlez de votre enfance. Vous voulez bien, s'il vous plaît, nous lire un extrait du Bleu des abeilles qui parle d'un petit coquillage.
Avec plaisir. C'est dans ce second train qu'Antoine a sorti de sa poche un coquillage avec un bonbon caché tout au fond, qu'il s'est aussitôt mis à lécher. J'ai pensé que c'était une drôle d'idée quand même de coincer un bonbon au fond d'un coquillage. Je n'avais jamais vu de friandise de cette sorte. Puis, sans un mot, il a eu ce geste qui m'a surprise comme il a eu l'air de surprendre ma mère. Sans poser les yeux sur moi, en faisant juste un mouvement de côté avec son bras, il m'a tendu un coquillage que visiblement il m'offrait. Il avait aussi un bonbon coincé tout au fond, mais il était d'une autre couleur que le sien. Alors j'ai imité Antoine. Ça a eu l'air de lui faire drôlement plaisir que côte à côte, chacun sur son strapontin, nous passions notre langue sur le fond d'un coquillage tout brillant de sucre. Le sien était jaune, comme ses cheveux.
C'est très beau, hein ?
Très beau.
J'adore l'idée de trouver un bonbon au fond d'un coquillage. Mais il y a vraiment cette idée, c'est pour ça que je parlais du poème, de sensations. C'est les sensations d'un enfant qui sont retranscrites dans le Bleu des abeilles. Vous en êtes consciente ?
Oui, c'est ce que j'ai cherché toutes ces premières fois. Le premier bonbon au fond d'un coquillage. Essayer de retrouver avec mes mots d'aujourd'hui ces premières sensations de mon arrivée en France, mais qui sont toutes les premières fois de l'enfance. Alors là, c'est d'une enfance particulière, bien sûr, mais ça fait un moment que je suis fascinée par l'écriture autour de l'enfance et par l'émerveillement. On dit toujours l'émerveillement de l'enfant, mais je crois, oui, que ça a à voir avec la découverte constante, quotidienne, à chaque instant.
Eva ? Laura Alcoba, lorsque vous écrivez, les mots vous viennent automatiquement en français ou vous pensez parfois en espagnol ?
Ils me viennent en français. Et ça a beaucoup surpris en Argentine, surtout quand mon premier roman a été publié là-bas. Arthur, vous l'avez dit, donc ça a été un événement en Argentine, parce qu'il y avait peu de livres de cette sorte, en tout cas de quelqu'un qui racontait ce qu'avait pu être l'expérience de la clandestinité pour une enfant.
Surtout, vous ne l'avez pas traduit en espagnol.
Voilà, et ce n'est pas moi qui l'ai traduit. On me disait, mais comment ? Comme si j'avais trahi. Comment avoir écrit un livre comme ça en français ? Pourquoi ? Quelle bizarrerie, quelle étrangeté.
Ah, ça, c'est bizarre. On a fait une interview d'Asaf Avidan, que vous entendrez bientôt, le chanteur israélien, qui ne voulait pas parler en hébreu. Pour lui, sa langue de travail, de chant, c'était l'anglais. Ça, c'est très psychanalytique, peut-être, le rapport à la langue de la création.
Oui, et c'est... C'était d'autant plus fort qu'en Argentine, donc ce premier livre, comme tous les autres qui ont été publiés par la suite, a été publié dans la collection de littérature argentine, qu'on reconnaît parce qu'elle est bleue d'ailleurs. Le seul livre en traduction dans cette collection-là, les seuls livres en traduction.
Bah oui, mais c'est parce que c'est en fait votre surmoi qui est argentin, même si vous écrivez en français. Mais puisqu'on parle d'Argentine, je voudrais qu'on se tourne vers Sandra Rinflet, qui nous raconte chaque semaine un personnage qu'on n'aurait pas forcément invité parce qu'il est trop loin ou pas assez connu pour passer dans les médias, mais qui en vaut vraiment la peine. Et je crois justement qu'on se dirige vers l'Argentine.
C'est même vrai ce qu'on dit. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé.
Encore heureux, c'est avec.
I'm never on your list.
Encore heureux, c'est.
On l'invitait partout pour mettre l'ambiance.
C'est avec.
I'm never on your list.
Chère Laura Alcoba, je suis ravie de présenter cette non-invitée en face de vous. Ça fait longtemps que j'attends de le faire parce que c'est l'une des femmes qui a changé ma vie, en tout cas ma vision du monde. Elle est argentine, comme vous. Je l'ai rencontrée à Quito, en Équateur, où elle est en prison. Elle était en prison depuis 8 ans, à 6000 km de chez elle, puisqu'elle vient de Buenos Aires, où elle avait laissé derrière elle ses deux enfants. Elle a été incarcérée parce qu'elle était mule, c'est-à-dire, j'imagine que vous savez ce que c'est.
Oui, moi,
c'est
je sais pas.
Mule, c'est moula en espagnol. C'est des femmes qui portent de la drogue pour leur compagnie. Et la plupart des femmes incarcérées en Amérique latine le sont pour cette raison. Et donc Véronica s'est fait arrêter. Au départ, elle voulait mourir parce qu'elle a constaté que dans la prison, toutes les femmes se prostituaient. Parce qu'en gros, l'administration pénitentiaire fournit de l'eau et du riz. Et si tu veux autre chose, il faut payer. Donc le seul moyen de subsistance qu'elles avaient trouvé, c'était de se prostituer. Et c'était d'autant plus facile que les prisons sont assez ouvertes là-bas. C'est-à-dire qu'un homme peut se présenter à la porte et dire « je viens voir Maria », on le laisse rentrer. Et
ah dans... oui, Maria, ben je la connais.
Arthur, voilà. J'espère que vous n'êtes pas allé abuser
non, non.
une jeune femme dans cette situation-là, parce qu'en gros, elles font des passes pour 3 dollars alors que c'est 10 dollars en ville. Et c'est voilà, la seule solution qu'elles avaient trouvée. Et Véronica s'est dit, en arrivant dans la prison, « je ne veux pas en arriver là ». Donc, elle avait deux solutions, le suicide ou essayer de trouver une solution pour changer les choses. Donc, vous vous doutez que si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a choisi la deuxième solution. Comme elle était professeure d'histoire en Argentine, elle a décidé de créer une école pour les enfants qui vivent avec leur mère. Ils sont 200 dans la prison, pour qu'eux aient une chance d'apprendre à lire, à écrire, qu'ils essaient de s'en sortir un peu mieux que leur mère. Et elle a surtout créé un journal pour que les femmes aient une source de revenus autre que la prostitution, pour qu'elles puissent s'exprimer. Et
à l'intérieur de la prison.
Les ateliers, oui, se déroulent dans la prison, mais ensuite le journal est vendu dans tout l'Équateur au profit des femmes qui écrivent à l'intérieur. Et donc quand je l'ai rencontrée, Véronica n'avait toujours pas été jugée et elle ne savait pas pour combien de temps elle allait rester en prison. Mais elle était sûre d'une chose, c'est que si elle devait retrouver la liberté aujourd'hui, eh bien ce serait un déchirement pour elle de quitter ces murs où elle se sent utile, aimée et où en fait, pour la première fois, elle avait l'impression d'être à la bonne place. Alors quand elle me racontait tout ça, Véronica m'offrait un maté dans sa cellule. Elle me demandait
un maté.
Si... Un maté, c'est un...
Vous bah, en Laura, parlez vous du maté dans votre livre,
c'est
Le Bleu des Abeilles.
C'est un thé argentin.
C'est un thé
traditionnel.
C'est très amer. Hein. Et oui, c'est une sorte de thé vert, mais très, très, très intense.
Ça se boit dans une petite tasse en métal. Voilà, c'est ouais. Ça. Et tu la partages. C'est assez convivial. Et en même temps, elle me demandait si je connaissais l'Argentine. Je lui ai dit que oui. Elle m'en a parlé longtemps en me décrivant tout ce qu'elle aimait là-bas. La nature, le dulce de leche, les dîners qui débutent à 1h du matin. Et Mercedes Sosa, sa chanteuse préférée. Et là, elle a commencé à me chanter Cambia. Je ne sais pas si vous connaissez ce morceau assez...
Oui, j'adore Mercedes Sosa.
Alors, je vais vous en faire le tout petit extrait qu'elle m'a fait qui était tellement à propos.
Là, je précise donc pour les yeux et les oreilles que Sandra vient de prendre une guitare, mais je crois que vous l'entendez. Mais c'est une vraie guitare.
Vous pouvez chanter avec moi, si vous la connaissez, Laura, je me sentirai moins seule.
Je chante très mal, malheureusement.
Cambia, todo cambia. Todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambió yo. En esta tierra lejana. Je vais pas vous la faire en entier, mais merci, c'est un
bon.
Mini extrait. Mais croyez-moi, elle le faisait bien mieux que moi, Véronica. Et alors, depuis ce morceau et cette rencontre à la prison, eh bien, Véronica a été libérée. Mercedes Sosa est décédée. Tout change comme
vous
dans la chanson.
Encore un peu dans une église, faut baisser la réverb.
C'est pour le côté un peu solennel ouais, de mon annonce. Et donc, tout a changé, sauf la trace que Véronica a laissée dans cette prison, parce que grâce à elle, il y a 700 femmes qui ont découvert la liberté des mots. Que vous affectionnez tant, chère Laura.
Un personnage de roman.
Si, c'est une très belle histoire. Oui, absolument. Oui. La prison, ça, c'est. J'y reviens toujours. C'est quelque chose qui a tellement été présent dans mon enfance et dans ma vie, mais la vie de mon père et de tant de gens en Argentine. Et...
Votre père est sorti de prison
oui,
en 80,
oui,
c'est
oui.
ça
Oui, oui, en 81. Il a passé 6 ans et demi en prison. Ça me bouleverse les récits et l'expérience de la prison. J'étais pour une rencontre il y a quelques temps, il y a quelques mois, à Béthune, à la maison d'arrêt de Béthune. Je suis sortie de là absolument retournée.
Pour vous remettre de vos émotions, ouais. Nous avons prévu une musique qui vous rend heureuse. Et j'en suis presque sûre, puisque c'est vous qui nous l'avez indiqué.
Laquelle ?
Essayez de reconnaître. Vous reconnaissez ?
Oui. Aguas de Mar.
Delis Regina et Carlos Jobim.
J'adore.
Pourquoi ça vous rend heureuse ?
Ça me rend heureuse parce que j'adore cette langue, j'adore le portugais du Brésil, j'adore la bossa nova.
Vous regrettez de ne pas être portugaise du Brésil?
Je ne sais pas. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que la bossa nova.
Bah alors laissons parler la musique.
Ribeira das águas de março é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando.
É uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
Minha promessa de vida no teu coração.
On passe du Brésil à l'Argentine, encore une fois, Laura Alcoba, l'enfant qui ne parlait pas français, vous, en tout cas le personnage du Bleu des Abeilles, qui avait honte de son accent en arrivant en France, très honte, est devenue normalienne, agrégée, traductrice, professeure de littérature espagnole à l'université. Vous croyez au pouvoir véritable de la langue, de cet outil-là?
Je l'aime, la langue. Oui, je vis avec les mots, avec la littérature, avec les textes. Oui, je crois en leur force. Oui, c'est ce qui me porte.
Non, parce que vous, c'était vraiment, on le sent dans Le Bleu des Abeilles, en tout cas le personnage, son obsession, c'est de parler français et de même plus avoir d'accent. Elle ne pense qu'à ça, cette petite fille.
Oui, elle veut mettre la langue dans sa bouche, dans sa tête, sous son nez, dans son palais,
dans
son corps. Et elle veut, oui, en même temps, la mettre en elle et être dedans, une sorte de...
C'est vrai qu'elle utilise la langue physique comme un objet. Il y a quelque chose de physique dans la langue pour elle. Même le français, ce français, le mot français qui contient un CCDI et qui n'existe pas en espagnol, c'est déjà physiquement étrange.
Oui, c'est étrange physiquement, c'est étrange du point de vue du son, de tous ces sons dont elle connaissait même pas l'existence, la différence entre un « on », un « en », un. Pour quelqu'un qui parle espagnol, c'est tout un éventail qui s'ouvre de possibles qu'elle ne connaissait pas avant.
Vous semblez entretenir le même rapport charnel à la langue française.
Oui.
Vous n'avez aucun accent, déjà?
Je sais pas. Oui, peut-être.
Aucun, vraiment.
Un accent muet, alors.
Un accent muet, comme le E.
J'ai semblé goûter les mots, les prononcer, avoir ce même rapport charnel au texte.
Oui, je me souviens très fortement de la manière dont je me suis exercée presque comme un sportif, hein, pour faire rentrer la langue dans ma bouche, pour la manger comme un morceau de fromage.
En lisant les textes tout haut.
Oui, et en prononçant des sons longuement, en essayant de trouver l'endroit où ça résonne sous le palais, sous le nez. C'est une expérience physique, oui, l'endroit où le S français chatouille, là où je n'avais jamais senti ces chatouilles-là avec l'espagnol, le Z, qui est très, très beau, très doux, très agréable.
Le langage vous fascine, c'est un point commun avec un monsieur qu'on aime beaucoup et qui intervient souvent, Laura Alcoba, et malgré lui, dans Le Bleu des Abeilles.
Raymond Queneau, vous êtes, dites-vous, parti du titre.
Oui, oui. J'ai voulu écrire un livre qui s'intitule Les fleurs bleues.
Comme ça,
oui. C'était un goût que j'avais pour le titre.
Et puis
ensuite, il a fallu écrire quelque chose derrière, oui.
Laure Alcoba, vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre, Le bleu des abeilles, qui parle un peu, et même beaucoup, de ce livre de Queneau, Les fleurs bleues.
Si j'ai choisi ce livre, c'est à cause du titre, Les fleurs bleues. C'est en pensant à la couleur et à la préférence des abeilles que je l'ai pris dans les rayons de la bibliothèque du Blanc-Ménil. Dès que j'ai déchiffré ces mots sur la tranche, je me suis dit que l'on pouvait peut-être y trouver une piste pour percer le mystère de la ruche. Ou bien le récit d'expériences semblables à celles que mon père aime tant imaginer dans ses lettres. Avec d'autres insectes, éventuellement, mais des buissons de fleurs tout aussi bleus. Des expériences florales dont on vérifie par la suite le résultat avec des poteaux, des rubans ou d'immenses ballons au milieu des champs. Il se peut que dans ce livre, on confirme que les fleurs bleues sont préférables à toutes les autres. Peut-être même qu'on le démontre. Voilà exactement ce que je me suis dit. Et si ce qui vaut pour les abeilles valait pour d'autres insectes, pour tous les êtres vivants, qui sait? Et si l'on préférait toujours le bleu en matière de fleurs? J'allais peut-être trouver dans ce livre des réponses à ces questions, des révélations dont je pourrais par la suite faire part à mon père. C'est d'abord pour ça que je l'ai choisi.
C'est très beau, on vous accompagne dans ce texte. Et pour ceux qui liront ce livre, qui auront la chance de le lire, vous découvrez un petit secret autour des fleurs bleues de Queneau. À la toute fin, c'est la dernière phrase du livre. On y revient toujours, mais on ne dit pas ce que c'est.
Non, bon teaser.
Pas. Non. On ne dit pas ce que c'est. En tout cas, l'autre teaser, c'est celui d'Eva Bester, qui nous parle parfois de secrets, mais aussi parfois d'autres choses. À chaque occasion, c'est une gourmandise.
How y'all feel out there?
Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette petite causerie, se sentirait pas d'humeur à batifoler.
Quelle aguiche, cher Arthur. La gourmandise du jour, je vous le donne en mille, je vous le donne en film, c'est un livre.
La colonia española se da cuenta hasta qué punto la ideología revolucionaria hace peligrar sus intereses, goma, minas, petróleo. Para combatir la revolución de los indios, es preciso poseer balas de plata.
N'ayez pas peur, c'est un extrait.
C'est vrai que ça fait un peu peur.
Ouais, il a une voix formidable, on a envie de dîner avec lui. Extrait film Tirano Banderas de José Luis María Sánchez, sorti en 1993 et adapté du livre fabuleux dont je vous parle aujourd'hui, Tirano Banderas, du poète, romancier et dramaturge espagnol Ramón del Valle Inclán. Laura Alcoba, vous le connaissez, j'imagine.
Oui.
Vous l'aimez bien?
Oui, je l'aime bien.
C'est
oui,
la bonne réponse.
Elle l'aime bien.
Ça veut pas dire elle
réponse polie.
Non, c'est vrai que c'est un. Il est dans l'excès, dans le c'est une vrai. Sorte de néo-baroque.
J'adore ça.
Très, très hispanique, ouais.
Alors, il était surnommé l'Anatole France-Espagnol. Mmh. Et alors, Valle Inclán, pour le resituer un peu, c'est un dandy chic type pauvre et républicain, accessoirement né en 1866 et mort en 1936, qui a occupé plusieurs fonctions gouvernementales et qui, à chaque fois, a démissionné pour cause de conflit d'opinion avec le concept de dictature, on pourrait dire. En 1926, règne en Espagne la dictature de Primo de Rivera. Valle Inclán revient à ce moment-là du Mexique, qu'il a complètement tourneboulé par son climat révolutionnaire. Il écrit alors dans un genre littéraire latino-américain, c'est ça qui frappe, l'un des romans pionniers du genre de roman de dictateur, Tirano Banderas. Alors Tirano Banderas est un diamant littéraire, un texte sublime, baroque, vous le disiez.
Oui.
Terrifiant, sensuel, envoûtant, décadent et surtout incroyablement cinématographique. C'est un véritable film en papier. Pour le dire simplement, Tirano Banderas, le lire, c'est perdre sa virginité en couchant avec le cosmos. Voilà, je vous le dis.
Vous aimez bien.
C'est beau.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça raconte, me demandez-vous, avec la vivacité d'une antilope à qui rien n'échappe? Eh bien, nous sommes à la fin du 19e siècle, dans un pays fictif d'Amérique du Sud, à Santa Fe de Tierra Firme, plus exactement, où sévit le despotisme cinglant de Tirano Banderas. La révolution est sur le point d'éclater et le tyran sur le point de déchoir. Sa chute sera sordide et fantastique, car sous la plume alchimique d'Inclán, le monstrueux se transforme toujours en or. La momie verdâtre droguée aux feuilles de coca qu'est le dictateur, même au comble de l'ignoble, arrive à convoquer dans nos esprits épouvantés et un peu luxurieux, soyons honnêtes, une tendresse pour la belle et sale race humaine. Et pourtant, le livre convoque une galerie de clowns grimaçants, lâches, cyniques, intéressés, sales. Notre prochain, finalement. Alors, il y a quelques gentils, les Indiens et les Créoles, soumis, mais ils sont moins rigolos. Alors attention, chers auditeurs, ce n'est pas manichéen. Tyranno, le monstre flamboyant, bien qu'allié aux colonies espagnoles contre les Indiens, a un petit bout d'humanité. Bien caché certes, mais bien présent. Alors oui, c'est vrai, il emprisonne ou tue quelquefois ses amis, mais si vous en aviez la possibilité, je suis sûre que vous feriez la même chose.
Non, non, non.
Si, et puis ne soyez pas aussi tatillon. Banderas a un terrible secret, un secret un peu du genre de l'homme au masque de fer. Quant à ses origines, je peux juste vous dire que... aujourd'hui, il n'aurait pas la cote avec l'actuelle politique française. Bref, si vous voulez aller au cinéma sans écran et voir en quelques pages la grandeur et la décadence de l'humanité saupoudrée d'un peu de stupre et de poésie, lisez Tyranno Banderas de Ramón del Valle Inclán. Ça a influencé García Márquez, pourquoi pas vous ?
Bah écoutez, si vous avez entendu, il aurait été ravi s'il écoutait France Inter.
Écoutez, c'est... il m'a dit qu'il écoutait.
Ah oui,
il m'attend chez moi tout à l'heure. Il est né en 1866.
D'accord. Eh bien, on le salue. Mais on salue aussi Étienne Dao, qui, comme vous, Laura Alcoba, a la peau dure, et puis on peut le dire, a aussi dans la poche un tout petit dictionnaire des rimes.
Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Fracture, poussée seule sur un tas d'ordures, torture, redoutée d'être une imposture. Froidure qui nous gerce le cœur et rouille les jointures. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Griffes, je lèche ta triste figure. Morsure, ton sang et ses éclaboussures. Roulure, les salauds qui peu à peu nous ont à l'usure. Oui, je les ressens dans les larmes de l'enfance. Toute la vie son murmure. Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier.
Je dirais que le passé c'était l'enfance, que le présent c'est le souvenir de l'enfance et que l'avenir c'est évidemment l'enfance. Voilà, les enfants.
Ça, c'est Jean-Claude Grimbert, c'est pas vrai?
Bravo!
Ah,
vous l'avez reconnu, Laura Alcoba?
Bah,
ça, c'est incroyable.
Oui,
je vous avais pas donné d'indice, vraiment. Hein.
Oui, mais je le connais. Et je connais très bien Olga Grimbert aussi, sa fille, qui est mon amie et une superbe comédienne. Donc, c'est très émouvant, ça.
On les a reçus lundi, c'était lundi. Et puis, Jean-Claude Grimbert a dit cette très belle phrase. Le passé, c'est l'enfance. Le présent,
magnifique.
C'est le souvenir de l'enfance. Le futur, c'est l'enfance. Vous pourriez le dire?
Oui, oui, oui. Et j'ai une grande admiration pour son travail et ça me parle, ça me touche énormément. Je crois qu'il fait avec ce terreau, ce paysage originel qui est le sien. Et moi, je
il y a deux traumatismes d'enfance qui sont travaillés dans l'écriture, comme vous en fait, de manière différente. Vous avez vraiment les yeux de l'enfance dans Le Bleu des Abeilles. Ça pourrait s'appeler les yeux de l'enfance quelque part, dans une manière très large, dans ce livre qui raconte votre arrivée en France, Laura Alcoba. Comment est-ce qu'on les retrouve, ces yeux de l'enfance? Est-ce que tout le monde les a ou alors tout le monde ne les a pas?
Je sais pas, mais disons que moi, c'est vrai, dans mes lectures, je suis à l'affût de ça. J'aime beaucoup, j'ai une grande admiration pour Romain Gary, pour
j'y pensais,
bien sûr, le Romain Gary de La Vie devant soi. Voilà, oui. J'adore les auteurs, aussi en musique, ailleurs, enfin dans l'art et tout ce qui peut m'intéresser, qui arrive à retrouver ses premières fois. Jean-Claude Grimbert le fait aussi, de manière brillante. Mais voilà, donc c'est ce qui me guide souvent dans mes lectures et c'est ce que j'essaye de faire.
Moi. La bibliothécaire qui voulait vous interdire de lire Les fleurs bleues de Queneau parce que c'était trop compliqué pour la petite fille avec accent que vous étiez, elle vous incitait à lire plutôt Le petit Nicolas. Vous refusiez de le lire, vous écrivez que vous ne le liriez jamais. Vous l'avez lu depuis ?
Oui.
Est-ce que vous lui avez surtout envoyé Le bleu des abeilles à sa bibliothécaire ?
Oui.
Non, je suis retournée au Blanc-Mesnil il y a peu de temps pour présenter Le bleu des abeilles. C'est très, très émouvant. Je ne sais pas si j'ai... Je ne crois pas avoir retrouvé cette bibliothécaire. Mais moi, je crois que parfois, quand on ne comprend pas, quand les choses sont trop difficiles, Elles peuvent être bénéfiques. Il y a un mystère de l'énigme et du secret, et ça marche aussi pour les livres.
Dans ce très beau livre, Le bleu des abeilles, c'est la rentrée littéraire de Gallimard, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et c'est ce qui fait sa beauté. Il y a aussi des choses qu'on comprend, et c'est ce qui fait sa beauté. Vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission sur la page de l'émission, comme son nom l'indique, encore heureux. Il y a aussi l'aphorisme de Justin Folger, et puis dans le répondeur de nos auditeurs fantasmés, que... raconte Gerwan Tranvanji, chère Laura Alcoba. On y trouve des bourdonnements piquants et doux aujourd'hui.
Bonjour à tous, c'est Hubert, apiculteur à Nontron. Voilà ce que vous entendez derrière moi, c'est un essaim d'abeilles en plein vol, voilà, qui est en train de regagner la ruche, qui est à quelques centimètres de là. Je voulais simplement vous dire que, je ne sais pas, Laura, si vous aviez connaissance de cette info, mais il y a des abeilles qui font un miel bleu naturellement, parce qu'en fait, elles vont butiner les restes d'une usine de dragée non loin de là, dans ma région. Et du coup, ça donne un miel bleu assez rare, malheureusement impropre à la consommation, parce qu'il ne répond pas aux normes européennes. Voilà, je trouvais ça marrant par rapport à la petite anecdote et par rapport au titre de votre livre.
Bonjour, je m'appelle Jolie Royal et je suis la femme d'Hubert, apiculteur à Nontron. La guérison par l'abeille, c'est possible grâce à ma pratique. En effet, je suis thérapeute. Mes abeilles butinent des champs biologiques pour assurer au venant tout son pouvoir de guérison. À chaque séance, mes abeilles vous piquent en masse selon les préceptes de la médecine chinoise traditionnelle. Celles-ci ont été formées directement auprès de Vespa Valutina, un maître frelon asiatique à pattes jaunes. Se faire du bien en se piquant, voilà une thérapie saine. Idéal pour les toxicomanes ou les personnes souffrant d'arthrose. Des stages avec essais intensifs sont possibles pour des expériences de mort imminente à la recherche du soi. Alors venez tenter une aventure dont vous vous souviendrez longtemps. Abeillement vôtre.
Oui, bonjour, moi j'ai une vraie question qui me turlupine et elle s'adresse à la fois à Arthur Dreyfus et Laura Alcoba. Arthur Dreyfus, vous avez publié La synthèse du camphre hein, à partir de lettres de votre grand-père et vous, Laura Alcoba, vous venez de publier Le bleu des abeilles à partir de lettres de votre père qui était prisonnier en Argentine. Donc la vraie question c'est est-ce que vos pères et grands-pères respectifs ne méritent pas un statut de co-auteur sur les livres, sachant que vous vous êtes quelque part approprié leur histoire pour écrire les vôtres. Ça pose une vraie question, si vous voulez, par rapport au statut de l'écrivain et par rapport aux informations réelles, parfois épistolaires, qu'il peut utiliser pour écrire une histoire. Voilà, je pense que c'est une vraie question légitime et j'aimerais la placer au cœur du débat.
J'ai mangé une fois des gâteaux, ça venait de l'Argentine. C'était un ami de ma fille, il l'avait ramené, je sais pas quoi. C'était bon! Oh là 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 là! C'était une sorte de confiture au caramel dans un gâteau. Je sais plus, ça s'appelait comme Alfa Romeo, un truc comme ça. J'en ai mangé un, j'en ai mangé deux, j'en ai mangé au moins 20, 30, je sais plus combien des Alfa Romeo. C'était tellement bon, mais alors il paraît, ça fait grossir. Oh là là, après j'étais mal. Oh! C'est ma nutritionniste qui va être contente. Mais si votre invitée, elle peut m'en fournir, je ne sais pas où en acheter ici en France, mais si elle peut faire, genre, m'en envoyer d'Argentine quand elle y va, moi je les achète. Je les achète.
Laura Alcoba, que sont ces gâteaux nommés Alfa Romeo? Vous les connaissez?
Oui, c'est la version de grande vitesse de l'Alfajor, oui.
Ah, d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut Eva.
Salut,
à demain.
Salut Arthur.
À la semaine prochaine, Sandra. Merci
prochaine.
À Benjamin Riquet pour la réalisation. Merci ce soir à la technique Julien Chabassu et Mathias Aléon. Merci à Valentine Chédebois qui nous a aidé à préparer cette émission. Et à la programmation musicale ce soir, c'est tiré du pain comme tous les soirs. Et puisqu'on parle de programmation musicale, rendons hommage à Bernard Chérez que j'ai eu du plaisir à rencontrer lors de ma jeune encore arrivée à la radio, ancien grand programmateur musical d'Inter et qui vient de nous quitter. Ça c'est une mauvaise nouvelle, il y a heureusement de bonnes nouvelles dans la vie, c'est tous les soirs Johannes Farr.